Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, il est tout juste midi et des poussières et je suis ravie de vous retrouver sous le ciel bleu de ce mercredi 4 mars. Il y a deux grandes fenêtres maintenant dans notre nouveau studio à travers lesquelles entre la lumière. On voit les bourgeons naissants et toutes les nuances de vert des aiguilles des pins éclairées par le soleil. Oui, le soleil qui semble se réinstaller pour de bon en Sud-Lozère et ici comme ailleurs, tout le monde aime le soleil, n'est-ce pas ?
Feel what
C'était Everybody Loves the Sunshine sur Radio Bartas, magnifique tube intemporel sorti il y a 50 ans en 1976, œuvre du grand musicien états-unien Roy Ayers qui s'est éteint lui il y a tout juste un an, c'était le 4 mars 2025.
Midi et des poussières.
Ce sont encore les vacances scolaires, donc si vous êtes parents, vos enfants sont peut-être en accueil de loisirs cette semaine. Accueil de loisirs aussi appelé ALSH, donc accueil de loisirs sans hébergement. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas parents, sachez que les ALSH sont des structures dédiées à l'accueil des enfants et des adolescents en dehors du cadre scolaire, les mercredis, pendant les vacances scolaires ou après l'école. Et ces structures peuvent être gérées par des communes, des associations ou des structures privées. Et si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'en Lozère, plusieurs de ces accueils de loisirs sont mobilisés en vue des élections municipales. Et pour en parler, je suis avec Yvan Boutry. Salut Yvan.
Salut.
Alors toi, tu es le directeur du foyer rural de Langlade-Brenoux qui dispose d'un accueil de loisirs. Et tu es venu ce midi pour nous partager les revendications portées par un collectif qui regroupe plusieurs associations organisatrices d'accueil de loisirs en Lozère. Pour commencer, tu peux peut-être nous présenter donc, ce collectif, comment est-ce qu'il s'est monté et quelles sont les structures qui le composent ?
Alors ce collectif, il s'est monté il y a un an à peu près, dans le cadre d'un DLA, en fait un dispositif local d'accompagnement, pour définir l'utilité sociale sur le territoire lozérien, des centres de loisirs, donc des ACM, des accueils collectifs de mineurs. On s'est retrouvé donc avec plusieurs responsables de structures, ALSH et ACM.
ACM, c'est
Accueil collectif de mineurs. Voilà, ça fait partie donc les ALSH et d'autres structures aussi, de manière un peu plus large. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois autour d'une table, accompagnés effectivement dans ce cadre du DLA.
C'est un dispositif qui permet aux associations d'être accompagnées pour
c'est
un
ça,
peu
ouais,
penser
ouais, ouais.
Leur
donc,
travail.
Donc voilà, ça accompagne en fait les associations, les structures à être guidées en fait pour travailler voilà, sur ce genre de sujet et faire émerger effectivement cette intelligence collective qu'on peut avoir. Et là, dans ce cadre-là, donc, c'était donc, sur l'utilité sociale des accueils de loisirs sur le territoire lozérien.
Parce que vous aviez le sentiment que ce n'était pas suffisamment clair pour tout le monde, leur utilité sociale, qu'il fallait un peu poser un cadre pour vraiment mettre en
ouais,
avant le
c'est,
rôle.
C'est un peu ça, ouais, effectivement. Il faut savoir que les accueils de loisirs, ils sont gérés majoritairement par des associations, donc forcément financés par des demandes de subventions, des prestations de services auprès de la CAF, hein, de la Caisse communale de sécurité sociale. Mais on va dire la contribution par les prestations de services ou les communautés de communes, les mairies, tout ça, représente quand même une grande part de leur budget. Hein. Il y a quand même une volonté forte de la part des collectivités pour soutenir les accueils de loisirs. Mais ça reste en soi quand même très insuffisant sur, voilà, pour un fonctionnement, un bon fonctionnement en fait, de nos structures. Et pouvoir proposer en fait aux enfants des activités vraiment de qualité et pas jouer que au collier de nouilles, pot de yaourt et bout de ficelle quoi. Voilà.
Et donc vous êtes 6 structures à vous être réunies donc pour avec ce dispositif d'accompagnement. Donc
ouais.
On peut citer les différentes associations. Il y a le foyer rural Les Petits Cailloux de Quézac, le foyer rural La Source de Florac, le foyer rural de Langlade-Brenoux bien sûr dont tu es le directeur, l'association Trait d'Union.
Oui.
L'association Chalène.
C'est ça, centre de loisirs à Chanac.
Et le domaine du Ventousé.
Le domaine du Ventousé. Après, on a eu d'autres structures aussi qui sont moins associatives, qui ont participé quand même à ce DLA. Notamment, par exemple, le centre de loisirs du Blémar, qui eux sont gérés par la communauté de communes directement. Ce n'est pas une association, mais c'est directement la collectivité qui permet à ce centre de loisirs-là de pouvoir être ouvert les vacances scolaires les mercredis. Voilà, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'accueil pour les enfants sur le territoire du Blémar.
Et donc voilà, rappeler l'importance de ces accueils de loisirs sur le territoire de la Lozère, c'est essentiel. Ça concerne quand même, vous donnez des chiffres, là j'ai votre communiqué de presse donc au collectif sous les yeux. Donc sur le territoire lozérien, ce sont 2066 enfants qui sont accueillis en extrascolaire donc pendant les vacances et 1560 enfants en périscolaire le mercredi. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2024, des chiffres compilés par la CAF.
C'est
mais on imagine que ça n'a pas tant bougé que ça depuis 2 ans.
Alors ça bouge pas énormément depuis 2 ans. Effectivement, on a toujours des enfants qui arrivent un petit peu plus vieux, hein, qui arrivent à 12-13 ans, donc qui ne sont plus accueillis dans le cadre des centres de loisirs les mercredis, mais qui passent directement plus sur les clubs ados, ce genre de services-là. Mais forcément, il y en a qui partent, et en fait, on a aussi tous nos petits bouts de chou à partir de 3 ans qui sont, enfin voilà, qui ont besoin aussi de modes d'accueil, hein, pour permettre aussi aux parents, aux deux parents, de pouvoir exercer un emploi de manière stable et pérenne, quoi.
Voilà, c'est ça, parce que vous avez mené une enquête aussi pour un petit peu bien cerner le besoin justement des parents, du côté des parents. Donc vous avez fait circuler un questionnaire.
Plusieurs,
voilà. Et donc voilà, quel genre de réponse vous avez eu? Qu'est-ce que ça vous a appris, ce questionnaire auprès des parents?
Ce questionnaire auprès des parents, donc effectivement, toutes les structures qui étaient impliquées ont interrogé les parents sur leur bassin de vie. Il en est quand même ressorti pour beaucoup de parents que c'était une nécessité d'avoir effectivement une possibilité d'accueil. Et je précise bien d'accueil et pas de garde, puisqu'on est un centre de loisirs, on n'est pas une garderie, ça c'est très important, qui leur permet en fait de pouvoir éviter de poser un jour de congé le mercredi ou des jours de congé pendant les vacances scolaires. On sait que dans la loi du travail, on n'a que 5 semaines par an de congés payés par structure. Effectivement, ça ne couvre pas complètement les périodes de vacances scolaires de leurs enfants. Donc c'est pour ça que c'est très important pour eux que des structures d'accueil de leurs enfants soient ouvertes sur leur territoire et peuvent accueillir leurs enfants, leur proposer des activités dans une continuité éducative aussi avec les écoles. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc voilà, on a eu plusieurs retours, hein, certains parents qui répondaient, mais ça, c'est indispensable pour moi d'avoir un accueil de loisirs, sinon je ne pourrais pas travailler.
Oui, ils sont 80% donc toutes les réponses que vous avez compilées à dire que c'est indispensable. Voilà.
C'est ça, ouais. Et effectivement, on a eu aussi beaucoup de retours en direct, hein, on ne passait pas que par le questionnaire, on était aussi dans le dialogue direct avec les parents quand ils amenaient leurs enfants le matin, qu'ils venaient les récupérer le soir. On avait des mamans qui nous disaient, enfin voilà, moi je serais obligé d'avoir un travail à mi-temps si on n'avait pas ça. Et là, comme on a ça, ben, on peut travailler à temps plein. Et c'est aussi une manière de permettre la possibilité d'avoir des meilleurs revenus au niveau du foyer, au niveau des ménages, qui permet aussi d'avoir un meilleur niveau de vie pour les familles.
Et tu faisais la distinction entre garderie et accueil de loisirs. C'est intéressant parce que voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir des moyens pour proposer des activités intéressantes pour les enfants et, comme tu le disais, les colliers de nouilles. Et donc, par exemple, de quoi est-ce que vous avez plus besoin ou pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que tu peux nous présenter un peu voilà, les activités plus
Alors c'est vrai qu'on a mis vraiment cette différence-là dans notre manière de travailler, de dire en fait effectivement la garderie c'est ce qu'on va pouvoir trouver des fois après l'école, où en fait on va avoir du personnel de service de l'école qui ne sont pas formés à l'animation vraiment. Alors après les qualités de chacun sont tout à fait respectables, mais ils ne sont pas formés, ni leur mission n'est pas non plus de faire de l'animation pour les enfants. Nous, ce qu'on propose avec nos différentes structures, c'est vraiment une continuité éducative pour les enfants avec des animations structurées, que ce soit dans l'apprentissage du savoir-être, du savoir-vivre, de l'éducation à l'environnement, de l'éducation à l'autre, en fait, de tous ces aspects-là, sans oublier cet aspect ludique auquel on est vraiment très très attaché. On apprend en s'amusant, c'est un peu ça notre grande phrase clé aussi et de nos volontés à nous, quoi, de permettre aux enfants de découvrir le monde par le jeu, par des activités ludiques et pédagogiques. Quoi.
Et donc, aujourd'hui, avec ce collectif, vous tirez quand même une sonnette d'alarme pour alerter. Donc, on a bien compris l'importance des centres de loisirs. Alors, quelles sont vos revendications? Quelle est l'urgence aujourd'hui?
Alors, l'urgence en soi, c'est qu'effectivement, on a du personnel qui est formé, qui au niveau de leur rémunération, c'est un certain prix aussi, quoi. Et si on veut pouvoir continuer à proposer des activités de qualité aux enfants, avec du personnel formé, hein, comme je viens de le dire, il faut aussi, là maintenant, période effectivement électorale, municipale, que l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les élus, les financeurs, hein, la CAF, la MSA, tous ces les communautés de communes, qu'ils soient bien au fait que tous ces centres de loisirs là qui permettent une valorisation de leur territoire aussi, parce que s'il n'y a pas d'accueil de loisirs, bah forcément au niveau de l'attractivité du territoire pour les familles, bah c'est un peu comme un hôpital, hein. On va aller s'installer quelque part parce qu'on a des services de soins à proximité. Bah là, on a aussi des services d'accueil d'enfants. Donc la petite sonnette d'alarme, effectivement, c'est de valoriser en fait toutes ces structures là qui en fait sont indispensables sur le territoire, qui valorisent le territoire, et surtout qu'on les oublie pas dans les financements, dans les demandes de subventions qu'on peut faire auprès des collectivités, qui permettent justement, si on a un petit peu plus de moyens, forcément, on va pouvoir continuer à faire des activités de bien meilleure qualité et effectivement faire de nouveaux petits bambins d'aujourd'hui, les adultes de demain, avec effectivement les meilleures connaissances et acquisitions sociales possibles.
Parce que là, vous craignez, donc avec les nouveaux mandats qui vont débuter suite aux élections municipales, vous craignez une baisse justement des financements sur lesquels vous fonctionnez ?
Alors oui, effectivement, on le craint. Après, c'est vrai que les collectivités, elles ont aussi des fois moins d'argent hein, qui leur reviennent de la part de la région, de la CAF, tout ça, parce que tous les budgets dans la politique actuelle nationale sont à la baisse. Et effectivement, si c'est à la baisse d'un côté, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que la culture, la politique enfance-jeunesse, c'est pas forcément les priorités au niveau national. Mmh. Donc forcément, s'il y a une baisse de subvention pour les collectivités de ce côté-là, forcément, ça va réimpacter ensuite, par effet boule de neige, hein, sur les plus petites structures qui sont l'accueil des enfants dans nos structures. Donc forcément,
oui, c'est une crainte.
C'est une grande crainte. Voilà. Enfin, on a fait aussi, dans toute cette étude, on a balayé en fait tout ce qui existe en fait. Hein. On a regardé aussi dans nos propres structures à chacun comment était le fonctionnement, pas forcément que technique, mais aussi le fonctionnement financier de nos structures. On a fait une moyenne à peu près sur nos accueils. Un enfant sur un accueil sur une journée représente 66 euros de charges pour la structure accueillante.
En prenant en compte les salaires des
en prenant en compte les salaires, le budget activité, le repas, matériel, le matériel, les feutres, les crayons, le papier,
l'électricité,
le chauffage, parfois l'allocation du local, hein, ce genre de choses. Donc ouais, ça représente 66 euros, sachant qu'il pour une grande majorité des structures ici en Lozère, la contribution qu'on demande aux familles est de 14 euros.
Ouais,
donc tout le reste, c'est les financements collectivités et mairie et prestations de services MSA et CAF.
Et est-ce que vous avez le sentiment, je ne sais pas si vous avez pu interagir avec les différents candidats, les différentes listes, ou en général, est-ce que vous avez l'impression que les agents municipaux sont à l'écoute de vos revendications et peut-être aujourd'hui les candidats, les candidates ?
Alors ils sont, pour en avoir rencontré plusieurs sur diverses occasions, alors ils entendent, moi j'ai vraiment ce sentiment là qu'ils entendent effectivement nos revendications, ils sont conscients que c'est quelque chose d'important, mais j'ai souvent entendu ce retour de discours, ça nous concerne, on est effectivement concernés par tout ça, mais on en fait déjà beaucoup. Et effectivement, ça ne va pas être dans leur prise de décision au niveau des communautés de communes, l'accent sur lequel ils vont mettre le budget. C'est sûr qu'ils regardent aussi l'intérêt financier sur l'ensemble de leur territoire. Il y a effectivement toute la politique enfance-jeunesse. Il y a certains territoires là, sur le département qui sont un petit peu mieux lotis que d'autres. Faut pas se le nier. Hein. Où ils mettent un petit peu plus de moyens aussi dans ce développement et l'existence de la politique jeunesse. Après, c'est sûr qu'ils ont déjà l'impression d'en faire beaucoup, même si en fait c'est déjà super, mais si on peut avoir un petit peu plus de valorisation de leur part, effectivement, juste sur la demande de subvention ou de la prestation de service, ça permettra d'avoir de meilleures activités pour les enfants.
Voilà, donc il ne faut surtout pas qu'ils vous oublient, comme tu le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Yvan. Nous, en tout cas, on était ravis de pouvoir se faire le relais de cette mobilisation sur Radio Bartas. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais aborder aussi.
Pas forcément. Après, c'est vrai que c'est dans tout le travail de cette démarche-là, C'est une première étape. Il y aura un communiqué de presse aussi qui va apparaître dans les journaux là très prochainement pour que vraiment ce message-là soit le plus relayé possible en cette période. Il y a d'autres outils qui vont arriver aussi par la suite. Donc voilà, j'invite tout le monde à regarder et puis à mettre un petit peu son nez dans ces histoires-là parce que pour tous les parents, enfin, en fait, on est tous concernés. Faut savoir qu'en fait aussi, petite dernière chose, les animateurs, directeurs qui travaillent en centre de loisirs travaillent ici en Lozère. Donc forcément, même eux, leur salaire va rebondir sur les commerces locaux. Ça fait vivre le territoire. Et donc, c'est enrichissant pour tous les territoires aussi. C'est pas que de l'argent qui tourne que pour soi, en fait. C'est de l'argent qui tourne pour tout le monde, en fait. Pareil, les achats de feutres, de crayons, bah, on fait travailler les commerçants locaux. On va pas forcément les acheter sur Internet parce que ça, c'est une volonté aussi qu'on a de faire travailler le local dans un département très rural comme celui de la Lozère. C'est quelque chose de très important.
Voilà, donc c'est réellement, comme vous l'expliquez, l'enjeu pour valoriser l'utilité sociale à tous les points de vue de ces accueils de loisirs. Merci beaucoup, Yvan Boutry, et à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et tout de suite sur Radio Bartas, nous sommes mercredi et c'est l'heure de la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes sur Radio Bartas.
Et bonjour David.
Bonjour Raphaël.
C'est toi qui es venu aujourd'hui pour la chronique Cinéco. Donc je rappelle que toi tu es bénévole auprès de Cinéco à Saint-Enimy.
Tout à fait.
Et donc aujourd'hui tu vas nous présenter le film Avatar.
Oui, troisième du nom, Avatar de feu et de cendre pour le sous-titre. Avatar, c'est donc le troisième épisode de la franchise qui est réalisé par James Cameron. On se retrouve toujours sur la planète Pandora. Avec dans les rôles titres, enfin les personnages plutôt principaux, Neytiri et son compagnon Jake, dans cette histoire qui va à nouveau confronter différentes tribus, et notamment une nouvelle tribu, les Ash, qui veut dire cendre en anglais. Donc ils sont plutôt tendance volcanique et qui va avoir à... Ils vont tendance à avoir à se confronter, se rencontrer et aussi apprendre à se connaître. Alors, dans ce film, bon, qui dure 3h17 quand même, mais pas d'inquiétude, vous pouvez y aller tranquille, vous allez passer un excellent moment, ça passe tout seul. Une des principales forces qui font que le film est bien appréciable, c'est le scénario qui n'est pas poussif, qui, voilà, tout s'enchaîne, une certaine fluidité, le rythme est constant, il est vraiment bien gardé et il n'est pas non plus épuisant, fatigant. Donc, vous ne sortez pas fatigué de la projection. Vous en avez plein la vue, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment très, très agréable à regarder. Alors, d'un point de vue visuel, bon, c'est indéniable. Hein, d'un point de vue esthétique, les décors, c'est toujours aussi magnifique. Les personnages, les créatures, l'imagination, cet imaginaire qui fait le talent de James Cameron de nous emmener dans cet univers-là. Et je vais peut-être, pour illustrer, sans trop raconter, mais à un moment donné, il y a une scène avec des bateaux. Des bateaux qui sont un mélange entre des voiles et des voiliers et des montgolfières. Comme des ailes de papillon ou des nageoires de méduses. C'est des bateaux à la fois pirates. Enfin, vous allez voir, il y a un mélange de plein de références et qui sont d'une extrême poésie et qui font fonctionner l'imaginaire du spectateur à fond. Et cette scène-là, je la trouve vraiment très, très réussie. Après, pour tout le reste du film, je voulais aussi revenir sur le procédé hein, qui s'appelle en anglais « performance capture ». C'est-à-dire que le film est réalisé en trois dimensions, il y a un personnage qui est en image réelle. Sinon, tous les autres sont des personnages numériques, 3D, qui sont interprétés par des comédiens. Donc le procédé, il est relativement simple, c'est-à-dire que ce sont des vrais comédiens. Ils ont une soixantaine de capteurs sur eux, notamment sur leur visage, qui enregistrent tous leurs mouvements et qui sont retranscrits par ordinateur. On a vraiment une qualité de matière, de lumière et d'expression des visages qui est vraiment bluffante. Donc, en quelques termes, ce que l'on voit à l'écran, les personnages, ce sont des marionnettes numériques qui sont animées par des manipulateurs qui, eux, ont des capteurs sur eux et pas des ficelles. Voilà. Ce procédé-là fait qu'ensuite, tout est tourné en studio sur des fonds verts. Donc là, c'est beaucoup moins séduisant pour les comédiens, notamment, puisqu'ils ne sont absolument pas dans des décors naturels, mais complètement artificiels. Du côté des comédiens, des vrais comédiens, Jake Sully est interprété par Sam Worthington, Nate Eary est toujours interprété par Zoe Saldana, et parmi les nouveaux comédiens, on peut noter la présence de Sigourney Weaver.
Et alors, est-ce qu'il y a une évolution dans justement l'animation, les décors, le graphisme par rapport aux deux films précédents? Est-ce qu'on sent peut-être l'avancée technologique dans le domaine du cinéma d'animation, ou est-ce qu'on reste dans un univers similaire au précédent film?
Alors, je suis un mauvais élève, j'ai pas vu les trois, j'ai vu juste le premier, Avatar. Il est sorti en 2009, donc ça commence à avoir quelques années, et probablement tu as raison, il doit y avoir une des avancées technologiques qui ont permis en termes de réalisation des progrès. Ça, je vais pas pouvoir le comparer. Par contre, je vais pouvoir vous parler de l'Avatar numéro 2 du nom, qui s'appelait La Voix de l'eau, qui est sorti en 2022, qui a été projeté à l'hiver 2023 à Cineco. Et dans celui-ci, là, entre le 2 et le 3, moi, je ne trouve pas réellement qu'il y a de nouvelles prouesses techniques. L'espace-temps est vraiment assez court. Visuellement, par contre, c'est toujours aussi beau. Et le numéro 2, donc La Voix de l'eau, comme son nom l'indique, se passait principalement en milieu aquatique. Eh bien là, dans le 3, on y retourne encore. Donc voilà, on retrouve certains personnages, certaines créatures, certains êtres vivants, et on passe beaucoup de temps de l'eau, mais aussi dans les airs. Donc vraiment, là, c'est un film aussi en... Alors, sans mauvais jeu de mots, en trois dimensions, parce qu'on est en tout cas dans tous les éléments qui permettent que la narration et que le réalisateur ici a souhaité explorer. Donc il y a une certaine continuité, aussi bien d'un point de vue décor, et en tout cas entre le 2 et le 3, il y a une continuité d'un point de vue animation.
Sur le propos du film, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sans trop dévoiler l'histoire, mais est-ce qu'il y a un propos général peut-être un peu écologique, ou vu que là, voilà, c'est un monde avec beaucoup d'éléments de nature très onirique qui se déploient?
Alors, en préparant l'émission, ce que j'ai pu, l'aspect écologique était peut-être plus dans le premier volet. On l'a un petit peu perdu dans le deuxième, La Voix de l'eau, et là, dans De feu et de cendre, je pense qu'on l'a encore un petit peu perdu, même si, voilà, il y a toujours cette volonté de préserver la planète, il y a l'importance, la présence des animaux et des êtres vivants. Voilà, et comme tu dis, j'irai pas forcément plus loin pour pas tout dévoiler, mais en tout cas, dans ce troisième volet, ce qui ressort quand même, c'est que les deux principaux protagonistes, donc Jake et celui qui joue le rôle du méchant, qui est un colonel, sont deux militaires. Donc il y a quand même un aspect bataille. Assez, voilà, il y a de grandes fresques, beaucoup de figurant, entre guillemets, le côté militaire, je trouve, ressort davantage qu'au profit du côté écologique. Mais c'est pas pour autant déplaisant. Hein. Ça offre de magnifiques scènes d'action et visuellement, c'est toujours aussi très très riche.
Donc tu recommandes?
Tout à fait, ouais, je recommande. C'est vraiment du grand grand spectacle. Vous en avez largement pour votre argent. C'est un très très bon film de divertissement. Ça dure 3h15, mais ça passe très très bien.
Eh ben merci beaucoup, David.
Merci, Raphaël.
Quelques horaires de projection à vous partager, mais on a pris un peu de retard à cause du déménagement dans la diffusion de cette chronique. Donc, pour voir Avatar en Cévennes, il faudra, chers auditeurs, chères auditrices, se déplacer dans les contrées gardoises, à Anduze par exemple, où le film sera projeté le samedi 7 mars à 16h, ou bien à Saint-Jean-du-Gard, où il sera projeté le mardi 10 mars à 20h. Voilà pour Avatar. Drôle de mot quand même, Avatar, assez particulier dans sa sonorité. Je me suis demandé si ça venait du mot « aventure ». Alors j'ai fait des petites recherches. Eh bien non, pas du tout. Aucun lien étymologique avec « aventure », car « avatar » est en fait un mot emprunté du sanskrit, la langue des textes religieux hindous, et désigne au sens propre chacune des incarnations successives du dieu Vishnu. Et par extension, il a désigné ensuite chacune des formes que peut prendre un être ou une chose. Et je vous propose d'entendre Alain Rey, le grand linguiste et lexicographe qui a été rédacteur en chef des publications des dictionnaires Le Robert de 1967 jusqu'à sa mort en 2020, qui nous retrace le parcours du mot « avatar ».
Avatar, c'est un mot que tout le monde connaît, bien entendu, et surtout depuis un célèbre film, célébrissime dans le monde entier, et qui a fait rêver plus d'un. Mais est-ce qu'on connaît bien le sens du mot? Ça, c'est une autre affaire. Il est apparu en français assez tard, mais il existait déjà en néerlandais au XVIIIe siècle, en anglais, etc. Et il venait du sanskrit, la langue très ancienne des Indiens, qui est une langue liturgique, et dans laquelle avatara, c'est là que vient le mot, voulait dire descente, et en particulier descente, incarnation dans un corps qui pouvait être un corps humain ou un corps d'animal. Donc c'est tout le problème de la réincarnation dans le brahmanisme qui est posé par avatar, mais on a oublié. Et bien sûr, au XIXe siècle, on emploie avatar en français courant pour mésaventures, choses bizarres. Mais le mot a repris de la force au moment où l'informatique s'en est emparée pour désigner les avatars, c'est-à-dire une sorte de pseudonyme et de pseudo-personnage qu'on met sur Internet pour cacher sa propre personnalité et en même temps pour l'exprimer et pour communiquer avec les autres. Donc l'histoire d'avatar du sanskrit, langue liturgique jusqu'au français, mot banal et ordinaire, reparti avec des sens figurés et des sens intéressants par l'informatique et par le cinéma récemment, tout ceci crée une histoire curieuse qui est racontée dans le dictionnaire historique de la langue française.
C'était Alain Rey sur Radio Barthas qui s'exprimait dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube des éditions Le Robert à l'occasion de la sortie du dictionnaire historique de la langue française en 3 volumes, et c'était en 2012.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Comme vous le savez, Radio Barthas vient de déménager et ce déménagement, ça a été l'occasion pour moi, qui suis arrivée il y a très peu de temps ici, de découvrir plein de choses sur cette radio et dans cette radio. J'ai découvert par exemple que les greniers de nos anciens locaux abritaient une collection de disques impressionnantes. CD, CD de titres, 33 tours, 45 tours, maxi 45 tours, plein de disques dormaient là et ni Véro, ni Léo, ni les administrateurs de Radio Barthas ne savent trop d'où ils viennent, ni comment ils sont arrivés dans ces greniers, comment ils étaient arrivés dans ces greniers. Mais voilà, c'est une vraie discothèque ou sonothèque et on s'est dit qu'on allait organiser une bourse aux disques bientôt pour partager tout ça avec vous. On vous en dira plus le moment venu. Mais en attendant, je vous propose une petite sélecta donc de cette collection Barthas pour qu'on écoute ensemble ces disques retrouvés. Et pour commencer, aujourd'hui, j'ai choisi un disque d'un groupe dont j'avais jamais entendu parler. C'est le duo Raft, qui est composé de Christian Fougeron et Pierre Scott. C'est un maxi 45 tours qui est sorti en 1987. Et la pochette, elle est assez belle. Sur fond noir, un collage avec des êtres un peu magiques. Et on voit les deux musiciens un peu ombragés, comme ça, perdus dans ce collage. Le morceau, c'est un maxi 45 tours, donc ça met en valeur un morceau qui s'appelle Yaka Danser. C'est un peu reggae, un peu teinté zouk, un peu daté aussi, mais quand même vraiment chouette encore, je trouve. Et pour les paroles, vous allez l'entendre, on est vraiment dans l'esprit, je pense, je dirais, de l'antiracisme des années 80. SOS Racisme a été créé 3 ans avant la sortie du morceau en 1984, avec son célèbre slogan « Touche pas à mon pote » qui résonne dans ce morceau et qui questionne beaucoup aujourd'hui. On a un peu changé de perspective, car en disant « Touche pas à mon pote », eh bien, on parle à la place du pote en question, comme s'il ne pouvait pas le dire lui-même. Et bon, c'est pas trop l'idée de perpétuer l'invisibilisation et la mise sous silence des revendications des personnes victimes de racisme et de discrimination. Mais bref, à l'époque, au début de ces grandes revendications antiracistes, c'était le discours. Et beaucoup d'artistes ont fait des morceaux dans cette veine-là. J'ai pensé par exemple à Pierre Perret avec Lily ou à Alain Souchon avec C'est déjà ça. Mais donc là, c'est Raft avec Yaka danser et ses paroles. Gars et filles tout mélangés, race et peau tout collés, Yaka rouler, swinguer, secouer, à jamais nous tous mêlés, couleur et sans mêler. Voilà, on va l'écouter tout de suite, je vais lancer le vinyle. Donc on écoute en direct sur les platines hein, du studio de Radio Barthas. C'est parti.
Yaka danser. Cadence et begin et zouké, gaz et fit tout mélanger, race et peau tout coller. Et à carouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et s'en mêler. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez? D'hommes et de mamba, tout tombe à Nouvelle-Calédonie. Qui reste aborigénal à la fin des colonies? Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle. C'est pour tout coller. Et à carouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et s'en mêler. Est-ce ça ou pas, est-ce ça, chacun ses héros. Chacun ses ghettos. Jeter gitan, humilié, homo pour un bon à rien. Mille indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et en divorce. Et à c'est pour tout coller. Et à carouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et s'en mêler. Tout mélanger, grâce et peau tout coller.
Rouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais.
C'était Yaka Danser de Raft sur Radio Vertas, l'un des disques exhumés de la discothèque cachée que j'ai retrouvé dans les anciens locaux de la radio et dont je vous proposerai de temps en temps une petite sélection pour qu'on redécouvre ensemble tous ces vieux disques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Rendez-vous à midi et des poussières exactement.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.